France Inter. Le masque et la plume. Deuxième émission dans des conditions particulières pour le masque. Aujourd'hui, nous devions enregistrer face aux spectateurs du théâtre de l'Alliance française le jeudi 10 avril. Et en raison d'un mouvement de grève contre le projet de holding de l'audiovisuel public, nous sommes en studio à la Maison de la Radio. Un son différent donc, mais un programme qui reste le même, à savoir l'actualité littéraire avec les nouveaux romans de Karine Thuil, Christine Angot, Marie Ndiaye, Chimamanda Ngozi Adichie et Aurélie Valogne. Pour en débattre, un quartet composé de Jean-Marc Proust, du média en ligne Slate, Blandine Rinkel, autrice et plume critique du compte Instagram Intérieur Nuit, Patricia Martin de France Inter et Laurent Chalumeau, auteur. Un père disparu, une nuit au musée ou encore une fugue dans le Finistère. Ce sont quelques-unes des trames de ce masque littéraire. Bonjour et je vous souhaite la bienvenue. Ce matin, l'ami du petit déjeuner s'appelle Le Masque et franchement, il a du mal à passer, nous écrit Stéphane, qui déplore, je cite, les critiques sans appel contre À qui s'est attendre de Michael Connelly et contre Bastion de Jackie Schwartzman. Stéphane dit avoir passé de très bons moments grâce à ces deux lectures. Puisque les critiques ont parlé de paresse concernant Connelly, Elisabeth Clou de Rennes, grande lectrice de l'auteur Angelin, veut dire à quel point elle a aimé cette paresse, et je crois que tu l'avais aimé aussi, Patricia.
Et j'aime Elisabeth.
Cette auditrice conseille la lecture de tous les romans de Connelly qui sont, selon elle, construits et détaillés et font peu appel aux coïncidences, contrairement à ce qui a été dit. Sur Instagram, Laurence raconte avoir acheté Théorie de la disparition de Séverine Chevalier. Après avoir écouté l'émission, je n'ai pas tout compris, mais je constate ceci, je ne cesse de penser à ce livre depuis sa lecture, alors merci. Sur Instagram, toujours, Nils a bien noté, Patricia, encore toi, que tu étais sensible et à l'écriture et au charme de l'auteur norvégien Aslak Nord.
J'adore l'ordre, à l'écriture et au charme ensuite.
Et donc Nils précise, je suis norvégien, j'écris aussi, j'ai 35 ans et je suis disponible. Au passage,
mais pour être mon fils.
Et voilà, mais je rappelle quand même que Aslak Nord est l'auteur d'un bon polar entre la Norvège et l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'intitule Piège à loup. Sur Instagram, enfin, Ninon m'écrit, quand vous avez parlé de la Realidad de Neige Sino, vous n'avez pas cité les mots de l'auteur chilien Roberto Bolaño que Neige Sino met en exergue. Cette phrase, isolée sur une page blanche, est plus qu'un indice pour le livre à venir. C'est une promesse. Merci de la lire. La voici donc, et moi, sans poser de questions, je monte sur la moto et nous partons. Et on commence avec le nouveau livre de Marie Ndiaye, qui fut lauréate du Goncourt 2009, avec trois femmes puissantes, et qui vient de publier Le Bon Denis. Le livre réunit quatre textes, comme quatre hypothèses, autour de la figure du père de Marie Ndiaye, père qu'elle a très peu connu puisqu'il a quitté le foyer familial quand elle était enfant. Le premier texte est un face-à-face entre une fille qui sonde la mémoire de sa mère, en train de perdre la raison. On suit ensuite un récit d'enfance en miroir, celle de la mère de Marie Ndiaye dans la Beauce et celle de son père au Sénégal. Le troisième texte est dédié à toutes les pensées que Marie Ndiaye n'a pas eues concernant son père, notamment son vécu du racisme. Et le livre se clôt par un conte dans un hôtel américain aussi sublime qu'un palais. Le Bon Denis paraît dans la collection Traits et Portraits du Mercure de France. Or, l'identité de cette collection est d'accueillir des textes autobiographiques avec des photos ou des illustrations. Et c'est la deuxième fois que Marie Ndiaye participe à cette collection. Jean-Marc, c'est toi qui ouvre le bal.
C'est un peu ce que je craignais parce que je suis passé plutôt à côté de ce livre. J'ai été sensible à l'écriture, que j'ai trouvé assez raffinée et vraiment très belle, très poétique. J'ai été sensible à l'entrelac de ces quatre parties avec le questionnement de la paternité et notamment le chapitre 2 où elle, par des courts paragraphes, elle met en parallèle les deux récits de l'enfance de sa mère et de son père que j'ai trouvé d'une très grande beauté.
Et nous sommes tous en attente de ton mais.
Mais j'ai trouvé que ça restait un bel objet qui a fleuré le sujet et malgré la beauté que je percevais, je restais insensible. Alors qu'il y avait des, je me suis dit, il y a des jolies photos, c'est joliment écrit, c'est un bel objet, un beau cadeau de Noël. C'est pas vraiment la période, mais
ouais, non, c'est pas...
moi personnellement, c'est bientôt, pas c'est exactement pas ma tasse de thé. J'étais un peu déçu par ce livre. Regarde des livres précédents de Marie-Anne Diaye.
Joli, dis-tu, Patricia?
Moi, j'étais transportée par ce texte dont je trouve.
Je le savais.
dont je trouve qu'il est si ajusté justement au déroulement de l'histoire. Tu as parlé du...
Je me demande si je ne fais pas exprès de préparer tes critiques.
Je ne t'entends pas. Je voudrais souligner aussi, comme tu l'as fait là pour le coup, la beauté de la langue. Mais il y a une solennité du style qui tient du respect, de la rectitude. Il y a là quelque chose de moral qui n'a rien à voir, qui n'aurait rien à voir avec une technique quelconque. Alors c'est une vieille dame qui ne peut plus boire son champagne que dans un verre à dents parce qu'elle ne peut plus tenir
la flûte. Ça, c'est la mère de Marine Diaye dans le premier texte.
Voilà, c'est un homme en faillite, là c'est le mari de la narratrice, un homme en faillite, faillite financière tout autant que sexuelle, et là c'est dit d'une manière extrêmement habile. Un garçon qui est né à Dakar, qui a crevé de faim, qui a été privé d'amour, dont la couleur de la peau et les grosses lèvres obstruent l'intelligence, évidemment dans le regard des autres.
Ça, c'est notamment de ses beaux-parents.
Et puis un autre garçon, peut-être un frère de larmes, dont... elle va faire la rencontre, effectivement, dans ce passage un peu onirique à la fin du livre. Je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant, je reprends là le terme à dessein, dont je trouve qu'il est trop souvent employé, mais dont elle est finalement...
De trois femmes puissantes.
Cette envie et cette impossibilité de rêver sa vie, sauf sans doute par l'écriture, et cette façon de contourner justement l'obstacle de tout ce qui est flou, de l'incertain par des mots, de transformer ce qui a pu être un piège, de le transformer en abri. C'est comme ça que j'ai lu ce livre, et qui m'a vraiment énormément touchée.
Laurent ?
Je suis embêté parce que à mon âge, à l'heure qu'il est, et singulièrement ces jours-ci, par les temps troublés que nous traversons, je préfère partager des enthousiasmes que des réticences. Les premières pages m'avaient bien disposé, parce que j'avais relevé plusieurs imparfaits du subjonctif. Or, j'adore les imparfaits du subjonctif.
C'est dit.
Et Marie-Anne Diaye, contrairement à moi, elle jongle avec la concordance des temps et avec la conjugaison des verbes du 48e groupe, avec une dextérité qui pourrait intéresser le Cirque du Soleil. Donc j'étais mis en appétit. Et en fait, j'ai l'impression que ce texte est en quelque sorte une ligne de partage des eaux. Entre celles et ceux qui sauront y prendre du plaisir, comme Patricia, pour qui je me réjouis, et ceux qu'il transformera en statue de sel pétrifiée par un ennui incrédule.
J'ai l'impression que tu appartiens présentement à la deuxième catégorie.
Un ennui incrédule.
Oui, parce que...
Qu'est-ce qu'il faut pour te distraire, alors, si tu t'emmerdes en lisant?
Tu préfères ne pas savoir, car je perdrai toute grâce à tes yeux. Non, mais ça m'arrange de croire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les deux groupes, il n'y a pas de méchant, personne n'a tort, tout le monde a raison, mais... Je veux juste signaler qu'on a le droit de ne pas être touché par la grâce. Et donc, tant mieux pour vous, tant mieux pour toi, si cette rhapsodie t'a embarqué. Je me réjouis pour toi, disais-je.
Tu fais partie des bienheureux.
Sans pour autant t'envier.
Mais donc, tu t'es ennuyé.
Je ne vais pas dire à mourir, parce que je suis là pour en parler, mais, mais c'était risqué.
Blandine ? Non, pas du tout, j'ai adoré ce livre, vraiment. Non, mais je trouve qu'il y a un parfum, en fait, qui émane des premières pages, vraiment, ça veut dire qu'il y a une langue, quoi. Et puis c'est comme si j'avais suivi ce parfum-là, et j'étais entrée dans une sorte de train fantôme, où les personnages, tous les personnages qu'elle met en place ont des secrets dans les yeux, et où les absents, alors en l'occurrence, le grand absent, c'est le père, règnent, en fait, règnent sur tout, et règnent sans partage. C'est drôle, grave, c'est bizarre, il y a à la fois des phrases sinueuses, un peu labyrinthiques, des phrases courtes, percussives, qui sont plus politiques aussi, notamment sur le racisme, un monologue obsessionnel hanté, c'est cinématographique, etc. Et bref, ça m'a laissé comme ça, un peu tangante, comme si je sortais de ce train fantôme, et que, en fait, c'était tous les spectres du train fantôme avaient le visage d'un père.
Bon, alors vraisemblablement, Laurent Chalumeau n'est pas monté dans ce train fantôme.
Non, mais bon, heureusement qu'il y a des gens qui en parlent si bien.
Donc, Le Bon Denis de Marine Diaye est publié au Mercure de France dans la collection Traits et Portraits. La guerre par d'autres moyens, c'est le titre du dernier roman de Karine Thuil. Après le succès de La Décision ou Des Choses Humaines, Goncourt des lycéens 2019, adapté au cinéma, le roman s'ouvre avec un ancien président de la République déchu, de gauche et juif. Il s'appelle Dan Lehman. Il a échoué à sa réélection et passé l'euphorie inégalable de l'exercice du pouvoir, son quotidien n'est qu'une longue descente alcoolisée. Au moment d'entrer à l'Élysée, Dan Lehman s'était marié avec Hilda, une jeune actrice allemande, de 20 ans sa cadette, pour qui il a quitté Marianne, sa première femme et mère de ses trois enfants. Alors le récit est mené à la troisième personne, mais passe au jeu. quand il adopte justement le point de vue de ce personnage d'ex-femme, de président et écrivaine. Quant à Hilda, eh bien, c'est une actrice sur le déclin qui tente de renouer avec sa carrière sous la direction d'un réalisateur qui a la carte du cinéma d'auteur et qui s'affiche féministe par pur opportunisme. Car une tuile se défend d'avoir écrit un roman à clé pour ce portrait quand même sombre de la France d'aujourd'hui, en tout cas portrait des hautes sphères du pouvoir, miné par toutes sortes d'addictions, par l'antisémitisme banalisé, par la violence, notamment sur les plateaux de cinéma. Laurent.
Bah quand c'est bien, faut le dire. Et là, vraiment, c'est bien. C'est un jeu de massacre que j'ai trouvé délicieusement divertissant. C'est une satire, comme tu le disais, qui veut capter un air du temps, un peu à la Tom Wolfe, dans le meilleur des cas, ou à la Seth Greenland. Alors, si Karine Thuil n'a pas le génie et l'inventivité stylistique de Tom Wolfe, elle peut aussi se consoler en se disant qu'elle est un peu moins réac et raciste que lui, ce qui n'est pas si mal, et puis qu'elle est moins malhonnête que Seth Greenland. Seth Greenland, c'est ce gars qui avait écrit, entre autres, je crois que ça s'appelait La mécanique de la chute, qui avait eu un petit retentissement il y a 3-4 ans. Moi, j'ai trouvé que son miroir déformant proposait un reflet finalement assez ressemblant des biotopes sur lesquels elle le promène.
Biotope ultra contemporain. Hein.
Justement, c'est pas un roman à clé, mais enfin, c'est quand même, par moments, on a l'impression d'être équipé d'un pied de biche pour quand même réussir à ouvrir certaines portes et certains volets. Alors, au passage, j'ai quand même noté techniquement quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'il y a certains éléments du texte qui, à l'évidence, doivent être importants pour l'autrice, comme pour tout un chacun, c'est tout ce qui renvoie à la judéité ou judaïsme de son personnage, dont d'ailleurs elle ne fait pas non plus grand-chose, mais sinon pour évoquer la recrudescence des actes antisémites et leur évolution démographique ou idéologique et l'instrumentation cynique que peuvent en faire certains pompiers pyromanes. Ça, pour le coup, c'est un vrai sujet. Et subitement, je trouve que son petit ton persifleur ne suffit plus. Là où il fait merveille pour jeter au bûcher les vanités
du Festival de Cannes,
des politiques et des élites, alors je dis ça avec une tonne de guillemets, des élites culturelles, là, sur un sujet aussi grave que la lézarde qui commence à fendiller ce qui nous fait être nation et ce qui fait le malheur de certains de nos compatriotes, bah, je trouve qu'elle, subitement, elle nage là où elle a plus trop pied. Mais Dieu merci, ça ne prend pas suffisamment de place dans le livre pour gâcher la fête ricanante que les autres pages proposent. Et franchement, la vie serait belle si toutes les lectures étaient aussi divertissantes.
Tu as été emportée, Patricia?
Ma chère Rebecca, j'aimerais tellement pouvoir dire que j'ai aimé ce livre.
Ouais, ça,
tellement.
Ça peut devenir une phrase générique parfois.
Alors, moi, j'ai l'impression qu'elle a pris un shaker, qu'elle y a mêlé plein d'éléments dont tu as parlé, qui traversent la société, la politique, le pouvoir en général, la domination, l'amour, MeToo, le masculin, le féminin, le vieillissement, l'alcoolisme, le succès, l'antisémitisme, cette société où on vit tous sous le regard des autres, et qui plus est quand on est sur le devant de la scène, qu'elle a remué tout ça, plus en y ajoutant quelques généralités. Alors, soit il en ressort une histoire, mais les personnages, moi, je les ai trouvés terriblement archétypaux. J'ai pas senti de vrais battements de cœur. Alors, elle décrit beaucoup des personnages antipathiques, donc je suis d'accord que ça doit pas être très facile. Mais enfin, tout de même, ça manque de nuances, de contradictions, d'interrogations. Je trouve que, précisément, les portraits masculins sont quand même sacrément à charge. Ce Lehmann, donc, qui est réduit à l'état de Locke, qui subit son destin, ben, c'est pas étoffé. Il a pas su résister à une femme beaucoup plus jeune, et ça donne comment dire non quand le chaos prend le visage de la vie. Soit, je trouve ça un peu court. Vous avez parlé de cinéma et de Cannes, mais l'attente de la sélection de Cannes, elle est réduite à un ego, donc celui du cinéaste, à des questions de calcul et de carrière. Ne me dis pas que le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est de la chair, c'est du sang, c'est des gens qui s'impliquent, etc.
Le cinéma peut être aussi ça, en tout cas.
Oui, enfin, c'est pas que ça. Si tu veux, comme par hasard, c'est ça qu'elle choisit de montrer et qu'elle décrit d'une manière, enfin, pardon, mais je trouve ça assez plat dans l'ensemble.
Et Blandine?
Moi, je voudrais dire en préambule que j'ai éprouvé une petite fatigue en commençant le livre, parce que je me suis dit, encore un livre sur les milieux de pouvoir, encore un livre sur les milieux bourgeoises, encore un livre sur ces vies, j'ai l'impression qu'on nous matraque avec ces vies. Donc j'ai eu une petite fatigue, je pense, de ce qu'on pourrait appeler un bourgeois gaze. Mais je me suis ensuite adonnée à la lecture et j'ai trouvé le livre très bien construit, très honnête, plutôt haletant. Enfin, j'ai plutôt été prise, j'avais vraiment envie d'avancer, de le finir, etc. C'est vrai qu'elle met quand même à jour, je suis assez d'accord avec Laurent, les mécaniques du pouvoir, quoi, de manière savoureuse, donc du pouvoir des politiciens, mais du pouvoir dans le couple, sur les réseaux de la jeunesse, etc. Après, moi, j'ai trouvé que ce livre sur la mécanique du pouvoir était peut-être, oui, exposé de manière un peu trop mécanique. C'est-à-dire que c'est vraiment très intelligent, c'est vraiment très bien rodé. Et c'est souvent très intentionnel. Par exemple, il y a une femme à qui on demande pourquoi elle n'est jamais tombée enceinte, et elle répond cette phrase-là. « Je ne suis pas sûre de vouloir des enfants un jour, cette pression que la société met sur les femmes me fatigue. » Je ne sais pas si on parle comme ça dans la vie.
Cela dit, les pages, les chapitres à la première personne du singulier qui sont menés donc par Marianne, cette ex-femme du président Dan Lehman, sont, je trouve, pas archétypaux, justement.
Ouais, ouais. Il y a un peu d'humanité.
Oui, oui.
Ah, plus que ça même, c'est une lecture des coulisses du pouvoir depuis le point de vue de cette femme et sur ses ravages sur la vie intime.
Je suis d'accord, Marianne et Dan,
elle aussi.
Ouais, Marianne et Dan me semblent assez complexes en fait.
Moi, c'est plutôt Mélanie que, à la limite, j'ai bien aimé.
Alors Mélanie, pour resituer, c'est l'une des actrices,
une actrice qui est évincée
d'un tournage au profit de la nouvelle femme du président de la République. Enfin, de l'ex-président de la République.
Pour moi, il y a un déséquilibre majeur dans ce livre. C'est qu'elle, pour moi, elle décrit très très bien le monde du cinéma et cette lutte des classes entre ceux qui sont au sommet de l'affiche et ceux qui luttent pour ne serait-ce qu'avoir leur nom au générique. Et ça, elle le raconte très bien, me semble-t-il, parce que c'est aussi ça, le cinéma. C'est ceux qui ont tous les privilèges, parce qu'ils sont vraiment des stars. Elle est déchue, mais elle retrouve...
Milieu très hiérarchisé,
ce qu'elle raconte. Et puis, des prolos.
Et effectivement, une comédienne qui ne peut même pas avoir sa place
pour aller voir le film en projection
à Cannes.
Elle a prêté son corps à l'actrice qui a le prix d'interprétation, et elle qui s'est mise à poil, elle n'existe pas.
Elle était sa doublure nue.
Et ça existe dans le monde du cinéma, et c'est ce privilège des classes et la lutte des prolo pour obtenir quelque chose, pour moi c'est d'une cruauté et d'une lucidité assez rare. En revanche, je trouve que dans le monde politique, elle se plante complètement. Pour moi, il y a des équipes, c'est-à-dire qu'elle est incapable de raconter le monde politique. Elle ne le connaît pas ou elle ne l'a pas assez travaillé, mais ce président, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'un président battu, c'est un très bon personnage romanesque. Un alcoolique, c'est un très bon personnage romanesque. Mais les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Et en fait, on a juste affaire à un alcoolo et un président qui ne voit personne. Il voit deux conseillers. C'est un ancien président de la République française, c'est pas ça. Il est tout le temps sollicité, il a du monde. Il parle à un dictaphone. Enfin, où est-ce qu'elle allait chercher
ce que faisait Richard Nixon. C'est une inspiration réelle.
Fait Richard Nixon, mais un président de la République française, c'est pas ça. Ça donne pas la bouteille. De toute façon, les politiques boivent tous, mais ils savent se tenir.
Donc, en fait, on va se faire des copains.
Mais bien sûr, c'est comme ça. Ça fait partie de leur métier. Il faut trinquer toute la journée. Donc en fait, ce déséquilibre, pour moi, fait que le roman ne fonctionne pas. Et puis après, elle lorgne du côté du roman balzacien parce qu'elle veut susciter l'indignation, la révolte des lecteurs. Et ça termine par une sorte de happy end. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie.
Donc
en fait, elle a sans doute eu trop d'ambition par rapport à ce qu'elle était capable d'écrire.
La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil est publiée chez Gallimard. On va parler maintenant de La nuit sur commande de Christine Angot. Elle dit avoir trouvé le titre du livre tout de suite. Ce titre établissait, je cite, « un tel lien entre la commande éditoriale de passer une nuit au musée et la commande sexuelle à laquelle je pouvais être confrontée à tout moment de la nuit entre mes 13 et 16 ans ». Le roman retrace la vie d'une femme en accéléré, entre ses 4 ans à Châteauroux et aujourd'hui à Paris. Il y a sa passion pour l'écriture, sa volonté d'en vivre, les rencontres artistiques qu'a provoqué la publication de L'Inceste, parue en 1999. Et c'est à ce moment-là que Christine Angot a l'occasion de fréquenter le milieu de l'art contemporain. Alors on croise notamment Sophie Cal, dont Christine Angot est un temps la favorite, fermée des guillemets, hein, comme on dirait d'un monarque. Il est question de hiérarchie, là encore, d'argent, donc de pouvoir, partout, dans les amitiés, les amours, les milieux sociaux, le milieu de l'édition, celui de l'art contemporain. Et pour répondre à la commande de la collection, hein, dans laquelle le livre s'inscrit, donc Ma nuit au musée, Christine Angot choisit la Bourse du commerce collection Pinault à Paris, lieu intimidant et de pouvoir et de prestige. Une commande a donc été passée à Angot et elle en déjoue toutes les attentes. Patricia.
Mais décidément, moi j'aime vraiment beaucoup Angot, j'aime sa lucidité, j'aime la droiture de son récit. C'est une femme valeureuse qui a l'art du croquis, elle croque comme ça ce milieu parisien littéraire artistique. Elle égratigne, quelquefois elle gifle au sens propre du terme. C'est un livre aussi qui montre son amour pour l'art, elle connaît bien l'art contemporain.
Oui, mais elle se sent illégitime pour
elle
en parler.
Elle se sent illégitime un peu dans beaucoup de domaines. Enfin, c'est une femme qui a du mal à trouver sa place.
Pas dans celui de l'écriture.
Mais c'est quand même assez incroyable.
Si, parce qu'elle parle quand même des doutes qu'elle a en tant qu'écrivaine.
Les doutes, vrai. Et puis elle dit qu'il y a un dialogue avec sa fille que je trouve très, très riche.
Parce qu'elle va au musée avec sa fille.
Elle va au musée avec sa fille, et puis sa fille lui dit, mais tu sais, t'étais tout le temps très occupée quand j'étais petite, genre t'avais pas vraiment le temps de faire gaffe à moi. Elle dit, j'étais possédée par mon travail. C'est une femme qui a passé sa vie dans une bulle, comme un lieu qui n'existe pas, soit devant un cahier sur lequel elle écrivait au départ, soit devant une Olivetti, ensuite une machine à écrire qu'elle s'était achetée, puis devant un ordinateur. Condamnée, au fond, à mettre sa vie dans le bon ordre. Ce livre est encore une fois la preuve vivante, comme d'autres livres d'Angot, qu'on n'en a jamais fini avec ça. Le ça, évidemment, c'est l'inceste. Que c'est constitutif de sa vie. Et c'est bien pour ça, précisément, qu'elle ne peut jamais rien faire sur commande. Moi, j'ai trouvé que c'était un texte très fort.
Jean-Marc ?
C'est parce qu'elle a écrit le pire. C'était pour te faire plaisir.
Tu les as portés de main, méfie-toi, je vais pouvoir te taper dessus.
Oui, c'est vrai, vous êtes côte à côte.
Non, j'ai trouvé que c'était un livre d'une profonde honnêteté. C'est-à-dire que le titre dit tout, c'est-à-dire qu'on lui passe commande du livre et elle raconte très précisément les conditions de la commande. Elle nous donne tout,
oui, sauf, elle nous en révèle les coulisses.
Voilà, elle doit passer une nuit au musée, donc elle fait un peu de placement de produits, elle répète deux, trois fois le nom de Pinault. Enfin là, elle fait le job correctement. Et puis, par-delà son histoire personnelle, l'inceste, elle doit se dire, il faut quand même que je trouve quelque chose à raconter avec le monde de l'art. Et il se trouve que j'ai fréquenté le monde de l'art à Paris, et donc elle nous fait du name-dropping, enfin c'est un peu le livre de Catherine Millet, mais sauf que tout le monde est habillé.
Ah, mais d'ailleurs, elle y est, hein, Catherine Millet.
Voilà, elle y est, Catherine Millet.
Oui, mais ce name-dropping est assez ironique.
Oui,
même.
C'est assez ironique, mais alors elle raconte des vernissages, des expos, elle parle de quelques tableaux, enfin c'est...
Et de quelques personnages très connus du public.
Voilà, tout ça est fait de façon assez évidente, simple, disant, bah, il faut que je raconte ça, puisque... Je dois parler un peu d'art. Et puis vient pour moi ce qui est vraiment le clou du spectacle, le moment où elle se retrouve au musée avec ses deux lits de camp et sa fille. Et là, elles sont confrontées au rien, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien à faire dans ce musée. Alors sa fille va jeter un œil sur les œuvres. Elle se plante devant son ordinateur.
Elles vont dîner en ce moment, à un moment donné.
Voilà. Elles
vont dîner ensemble.
Elles se disent, bah, si on allait manger, il y a le resto du musée, allons-y. Qu'est-ce que je peux bien raconter ? Elle décrit les gens qui sont à la table voisine. Le serveur qui lui dit, il faut garder votre couteau, c'est une tradition en Aveyron. Elle retourne sur les lits de camp et elles disent, bah, on s'emmerde, on rentre à la maison. Ça justifie tout ce qu'elle a écrit auparavant. C'est-à-dire qu'elle a fait, pour moi, une sorte de remplissage très honnête. Voilà.
Mais il y a aussi tous les passages qui concernent l'appréciation d'une œuvre d'art.
C'est pour ça que je dis, elle s'y connaît, Anna. Elle connaît plein de choses.
Quand est-ce qu'on dit « j'aime » et qu'est-ce que ça veut dire dans un endroit aussi prestigieux que la Bourse du Commerce ? Glandine ?
Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est en effet le fait que la découverte de l'art pour Christine Angot est indissociable de sa découverte de l'inceste. En fait, dès la deuxième page, elle raconte que l'apprentissage des termes d'architecture alternait pour elle avec l'inceste qu'elle subissait à son retour à l'hôtel.
Oui, parce qu'elle allait avec son père,
avec son
il l'emmenait
père,
dans
voilà.
les musées.
Et il lui apprenait des termes.
Et après, il la violait quand il revenait à l'hôtel.
Et ça, enfin, j'ai été sensible à la même chose, au fait qu'on n'en sort pas et que Christine Angot, en fait, elle n'en sort pas. Et elle le dit, elle le répète, elle le rappelle. Et je pense qu'il faut l'entendre, ça. Et donc, un livre de commande, bah forcément, c'est aussi un livre sur ce qu'est une commande. Un livre sur une commande la nuit, c'est un livre sur ce qu'est une commande la nuit. Après, elle cherche à conquérir une forme de liberté dans une réponse à une commande. Donc, je pense que ça, elle le dit quand même. En fait, au contraire, elle connaît les commandes. Elle sait ce que c'est qu'une commande. Voilà, elle n'évite pas les commandes.
Et elle décide de ne plus y répondre, là.
Et elle en tout cas, elle en déjoue
les codes.
Mais elle trouve une liberté tout en prétendant y répondre. Oui. Après, je vous rejoins aussi sur le fait que le livre est quand même plein de noms propres qui sont utilisés comme des noms communs. Et moi, qui ne connais pas forcément en fait tous les noms dont elle parlait, j'aurais eu le besoin en fait qu'elle déplie parfois, qu'elle m'explique quel était l'intérêt de citer telle ou telle personne. Voilà, j'avais besoin d'un peu plus de matière. Mais j'ai l'impression que l'écriture de Christine Angot, en fait, c'est des petites pierres. Donc c'est des phrases comme ça ramassées, fortes, fermes. Puis elle trace un sentier, ou alors je sais pas, j'ai une autre métaphore qui me vient. Elle a une pierre à la main et elle creuse un trou. Bon voilà, choisissez votre métaphore, mais il y a un truc comme ça et je pense que c'est sa force.
Laurent.
C'est soi-disant une commande, et l'air de rien, elle se retrouve quand même à dire plein de choses sur plein de sujets, avec son regard unique, forcément unique, hein, et pour cause, aurait-on envie de dire. C'est-à-dire ce regard à la fois devenu adulte trop tôt, et parallèlement à ça, à jamais enfantin. sans illusion et indécrottablement ingénue, et capable de dire que l'empereur est nu, qu'il y a un éléphant dans la pièce, mais sans pour autant que ce soit une posture. Donc ça, c'est quand même, oui, c'est unique, ça n'appartient qu'à elle. Mmh. Et ça donne un livre qui est très respectueux vis-à-vis de l'art, mais qui en revanche ne pardonne rien aux artistes, ou supposait-elle, ou à la faune qui gravite autour. Et pour ma part, je l'ai lu avec plaisir, je serais même tenté de le recommander, alors sinon à tout le monde, du moins aux gens qui n'ont jamais lu Christine Angot, qui connaissent pas sa phrase glacée, qui fait pas d'effort pour se faire belle, qui fait de cadeaux à personne. Et je le recommande aussi à des gens qui seraient tristes de ne jamais avoir été invité au dîner de Sophie Calle ou de Catherine Millet, ou de ne pas avoir été ami avec Yann Moix, parce que la lecture du livre devrait leur ôter certains regrets, voire les inciter à remercier le ciel.
La nuit sur commande de Christine Angot est publiée chez Stock dans la collection Ma nuit au musée. Le livre suivant est signé par la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, mondialement connue depuis la publication de son roman Americana et entrée dans la pop culture depuis que la chanteuse Beyoncé a utilisé un extrait d'une de ses conférences dans une chanson. Ce nouveau roman s'intitule L'inventaire des rêves. Il se compose de 4 parcours de femmes, 4 femmes liées les unes aux autres par l'amitié, l'entraide, et le roman donc est scandé en chapitres dédiés à chacune d'entre elles. 3 de ces femmes sont des Nigérianes aisées, parties s'installer aux États-Unis. La 4e vient de Guinée et pense réaliser son rêve américain en étant embauchée comme femme de chambre dans un palace, jusqu'à ce qu'un des riches clients blancs l'agresse sexuellement. Alors ce personnage est inspiré de Nafissatou Diallo, qui avait porté plainte pour agression sexuelle et tentative de viol contre Dominique Strauss-Kahn en 2011. Le roman interroge les rêves de chacune de ces femmes, quelle est la part de désir qui leur appartient en propre, quelle place tiennent les attentes de la famille, les exigences de la tradition, les projections sociales sur une femme africaine qui vit aux États-Unis. Et alors ça faisait 12 ans que Chimamanda Ngozi Adichie n'avait pas publié de roman, c'est donc peu dire que celui-ci était vraiment très attendu. Et d'ailleurs, elle a été accueillie par la presse, télé et radio, dont France Inter d'ailleurs, en superstar. Blandine, est-ce que ça te semble justifié ?
Oui, moi j'étais très contente de la retrouver, je l'attendais vraiment depuis Americana, et c'est vrai qu'avec ce livre, il me semble que Chimamanda Ngozi Adichie rappelle aux États-Unis, en particulier, et peut-être à l'Occident en général, a un devoir de décence, et elle le fait avec de l'humour, parce que l'humour et l'humilité souvent vont de pair. Cette common decency dont parlait Orwell, quoi. Le mot décence, en fait, est parmi les derniers du livre, et il qualifie Kadiatou, donc inspiré de Nafissatou Diallo. Et j'ai trouvé que c'était les parties les plus fortes, celles qui concernaient Kadiatou. Enfin, j'ai trouvé vraiment très émouvante et j'ai trouvé très beau le parti pris même.
Donc les pages inspirées de l'histoire de Nafissatou Diallo.
Ouais. J'ai trouvé ça très fort que Chimamanda Ngozi Adichie, qui est quand même l'une des plus grandes autrices ou des autrices les plus attendues, et nigérianes et américaines, revienne en rendant à Kadiatou et donc à Nafissatou Diallo sa dignité. Et qu'elle, en fait, elle se décentre finalement d'elle-même aussi, Chimamanda Ngozi Adichie, en faisant ça. Enfin, elle se décentre, elle regarde d'autres vies, en fait, que la sienne. Elle montre aussi avec ce livre que les États-Unis peuvent être considérés comme une périphérie. Parce qu'en fait, finalement, alors ça se passe aux États-Unis, mais à chaque fois, c'est des personnes nigérianes qui regardent les États-Unis, guinéennes qui regardent les États-Unis. C'est comme, en fait, les États-Unis à la périphérie, et d'autres endroits sont des centres auxquels on aspire ou auxquels on reviendra, etc. Bon, voilà, j'ai trouvé ça très réjouissant. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi, tout simplement, vraiment de plaisir de lecture. J'ai ri.
Laurent ?
C'est à l'évidence un très très bon livre, hein, et plus que ça encore. Et ce que je vais dire ne veut surtout pas venir troubler ce cœur de louanges méritées. C'est juste de 3 observations qui me sont venues.
On a besoin d'un point de vue masculin, tu sais.
Alors,
je
ne sais pas si ce sera genré.
Je ne sais pas, écoutons.
En tout cas, c'est de toi.
Donc, ce sont 4 portraits de femmes. Ouais. Il y en a 2 qui sont rédigés à la première personne et 2 à la troisième personne. Et il m'a semblé, ça n'engage évidemment que moi, que les 2 les plus réussis sont les 2 qui sont à la première personne. Particulièrement, la partie qui concerne donc le double de Nafissatou Diallo, c'est celle qui est la plus dynamique dès lors que c'est celle où
c'est
le viol
de
cette femme par le prête-nom de Dominique Strauss-Kahn est raconté par le menu, et là pour le coup de façon très très péchue. Ce qui précède l'émigration du personnage aux États-Unis, m'a fait l'effet d'être techniquement moins maîtrisé, peut-être parce que c'est justement ce qu'il y a de le plus loin de l'autrice. Et je trouve que, par exemple, l'innocence de la broussarde qui va découvrir la brutalité du monde civilisé est un peu sursignifiée. C'est-à-dire que le récit adopte un ton qui est un peu celui du conte. Je trouve que le personnage, au début de sa partie, est un peu infantilisé. J'ai trouvé que c'était étonnant. La deuxième observation, c'est que c'est bien joli de s'en remettre au personnage pour fabriquer du récit. Mais sur un livre de 500 pages en anglais et de plus de 600 en français, c'est pas mal si l'auteur les aide aussi un petit peu dans la montée. D'avoir une intrigue plus clairement identifiable, ça peut aussi constituer une politesse vis-à-vis du
ça,
lecteur.
Ça signifie que parfois tu t'es ennuyé un peu.
Non, mais c'est très frustrant parce qu'on a l'impression de lire un quasi chef-d'œuvre et malgré tout, par moments, on a l'impression que la roue arrière-gauche est un peu enlisée. Voilà.
Jean-Marc ?
Moi, j'ai trouvé que c'est un livre qui était plutôt réussi, quoique un peu déséquilibré. Je suis d'accord avec toi, Laurent, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre les personnages. La partie qui concerne Kadiatou est évidemment très au-dessus des trois autres, parce qu'elle est d'une violence, et puis ensuite, elle raconte cette agression sexuelle minute par minute, et on est vraiment dans la peau de cette femme.
Mais elle
en dissout
quand même tout le côté spectaculaire qu'il y a eu au moment de l'affaire Nafissatou Diallo. Hein.
Elle le dissout.
Ah oui.
Et donc, elle redonne à la fois une histoire et une dignité à cette femme. Je pense que là, ça crée un déséquilibre dans le roman, puisque la dernière partie conclusive revient un petit peu aux amours d'une autre femme, qui est plutôt une femme riche, etc., qui n'a pas de problème d'inclusion dans la société. Et donc, cette partie conclusive, pour moi, tombe à plat après ce qu'on a lu auparavant. En revanche, j'étais quand même assez sensible aussi au portrait qu'elle dessinait de cette femme qui travaille dans la finance. Moi, j'ai appris des choses sur la finance au Nigeria. C'est quand même assez fou ce qui s'y pratique. Là, il y a un portrait qui me semble vraiment singulier, pour employer le mot qu'on a employé tout à l'heure, d'une femme puissante.
Patricia ?
Moi, il y en a une dont on n'a pas encore parlé, mais que j'ai adorée, c'est Omélogore, qui est une femme belle, courtisée, qui refuse plein de demandes en mariage et qui décide d'étudier la pornographie pour mieux prouver à ceux qui s'y intéressent
je
que c'est
laissé.
Complètement stupide. Mais c'est une sacrée rebelle. Et ce livre, je trouve qu'il est magnifique parce que c'est la preuve vivante que le féminisme, ce n'est pas, ça va au-delà du militantisme, même si évidemment le militantisme est nécessaire, mais c'est une vision du monde. Le livre est dédié à sa mère, qui est morte en 2021, et à la fin du livre...
Qui a
dans
déclenché
la note de
l'écriture, d'ailleurs.
Absolument, et elle dit qu'elle aurait pu dire, justement, de Kadiatou, ma semblable. Les femmes noires, en fait, elles accumulent deux handicaps, elles sont femmes et elles sont noires. Et on en est, à mon avis, qu'au début d'une prise de conscience. C'est un miroir qu'elle nous tend. Toutes ces normes que les femmes intègres, qui leur sont transmises, qui sont tellement intégrées qu'elles sont rendues invisibles, fait que le destin d'une femme noire, d'une africaine, c'est de se trouver un mari, de le satisfaire, et puis de se sentir coupable si c'est pas le cas, puis d'avoir des enfants, et donc d'accepter les mariages arrangés, et j'en passe.
Et il y a un point commun entre les quatre, c'est qu'elles sont toutes maltraitées par les hommes.
Mais il y a aussi le père de Chiamaka. Il est formidable. Il y a aussi des hommes bien. On n'est pas
ils sont
du
très
tout dans la caricature.
Les hommes. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs types d'hommes décrits. Darnell, par exemple, je le trouve très singulier, très marrant. Mais c'est pas non plus des caricatures
absolument
d'hommes
pas.
Toxiques.
Et je trouve qu'il y a un côté universaliste dans ce roman.
L'inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie, traduit par Blandine Longre et publié chez Gallimard. On termine avec La Fugue d'Aurélie Valogne, autrice qui publie un roman par an depuis 10 ans maintenant. La Fugue, c'est celle d'Inès, 47 ans, un ex-mari, deux grands-enfants. Inès plaque sa vie en ville pour tout recommencer dans une grande maison du Finistère. La biographie d'Aurélie Valogne indique, je crois qu'il s'agit de la maison de Jane Birkin, en fait, où elle a écrit ce roman. En tout cas, c'est un lieu d'inspiration. La bibliothèque essentiellement féminine de cette maison va jouer un rôle important dans le changement de vie du personnage d'Inès. Elle fait aussi la connaissance de femmes du coin, ostréicultrices, peintres ou bergères. La mère très malade d'Inès lui rend aussi visite. Et le quotidien de ces femmes est rythmé par des chansons de Björk, Taylor Swift ou Nina Simone. Laurent ?
C'est un livre étonnant.
C'est un roman en non-mixité choisi.
Oui, non, c'est très étonnant. C'est...
Oui, il n'y a que des femmes.
Il y a une absence totale d'ambition stylistique. Alors au début, c'est une disposition qui déconcerte, parce qu'on se dit que c'est écrit comme du Enid Blyton, qui, comme chacun sait, est l'autrice du Club des Cinq, mais aussi de Oui, Oui. Mais assez vite, on s'aperçoit que cette humilité et cette prudence-là, finalement, sont totalement sincères, et ça devient sourdement agréable. Alors, je pense que ça n'est pas pour rien dans le succès que remporte cette autrice, parce qu'il y a ça, il y a ses chapitres courts, il y a son récit qui progresse principalement par le truchement de dialogues, il y a aussi son optimisme indécrottable. À la différence de d'autres fictions de grande consommation, les clichés et l'idéologie qu'elle manipule sont plutôt progressifs. C'est un peu le négatif photographique du roman de Chimamanda Ngozi Adichie, parce qu'il y en a un qui est un Sex and the City afrocentré, et là c'est un Desperate Housewife finistérien où tout le monde est blanc. Et là où les hommes sont défaillants et décevants chez l'une, là ils sont carrément absents. Chimamanda disait que l'entraide entre femmes est révolutionnaire. Alors à ce moment-là, Henri Valong, c'est Guy Debord et Mao Tse-Tung.
Jean-Marc ?
Moi, ce livre, je peux en parler des heures. Je trouve vraiment très, très intéressant. Ne serait-ce que par le bandeau de couverture et les panneaux 4
par 3. Mais je vous aime, les garçons.
5 millions de lecteurs. Ça nous est rappelé.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que c'est une autrice à succès. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ce livre ? Elle nous parle de Simone de Beauvoir, de Virginia Woolf, d'Agnès Varda, et elle en parle à des gens qui ne lisent pas.
Smith.
Qui ne lisent pas Simone de Beauvoir et qui ne regardent pas les films d'Agnès Varda. Et je ne dis pas ça par mépris de classe. Donc elle fait ce rôle, pour moi, important de transmission, de passeuse, de traduction du féminisme, même si elle le fait de manière très superficielle. Elle donne des noms, des titres, des citations. Ensuite, je dis roman en non-mixité, mais ce n'est pas une blague. En fait, pour moi, elle s'inscrit vraiment dans la veine du roman utopiste insulaire. C'est-à-dire que l'héroïne arrive dans le Finistère, elle nous dit que c'est le bout du monde, elle a quitté son mari, elle va pas bien, c'est une naufragée. Et en fait, c'est Robinson Crusoe qui débarque. Et on va reconstruire une société utopique et elle prend le contre-pied, puisque là, il n'y a que des femmes, alors que c'est des romans essentiellement masculins. Et donc, elle s'inscrit dans ce genre-là, elle arrive à le faire avec ses mots. Et donc, pour moi, d'un point de vue sociologique, c'est vraiment un bouquin important. D'un point de vue littéraire, elle est dans un courant dont elle prend le contre-pied, et je trouve que c'est intéressant. Après, d'un point de vue littéraire, c'est nul. Mais c'est nul. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun intérêt. Tout est mal écrit. Et puis, il y a de l'analogie qui est vraiment... Elle arrive avec des gros sabots. C'est-à-dire qu'elle est dans cette maison, il y a des fuites d'eau. Ah, il y a des fuites d'eau. Alors, je vais refaire les papiers peints. Oh, il y a une fissure dans le mur. C'est une cicatrice de la maison. Et si le lecteur n'a pas compris, il y a sa voisine qui lui dit « Mais cette maison, c'est toi. Il faut que tu la répares. Il faut
mais
que
mais
tu la reconstruis. »
Prétentieux, pardon, juste je glisse ça. C'est quelque chose dont j'ai vraiment l'impression dont on peut l'accréditer, c'est qu'elle ne prétend pas, elle ne peut être pas plus haut que son luth.
Je pense que c'est sincère et pour moi, elle est vraiment une sorte d'éponge de l'époque. Elle est dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'elle fait des bouquins qui sont mièvres, qui sont un peu cucu, enfantin.
C'est pas mièvre, je suis pas d'accord.
Ah, pour moi, c'est quand même mièvre.
C'est pas mièvre.
Enfin, quand je lis quelques phrases, puis en plus, elle est vraiment dans le roman Feel Good. Aujourd'hui est le début de ma nouvelle vie, de mon second printemps, le jour d'un recommencement. Le plus bel âge de la vie, c'est quand on est heureux. C'est un petit peu du sourd Raphaël Giordano, quand même. C'est pas très,
ah bah,
c'est pas
c'est
très
fin. C'est pas Pascal Guignard dans Villa Amalia.
Il ne faut pas continuer
sa vie, parce que c'est aussi l'histoire d'une femme qui quitte tout pour aller dans une maison. Ah non, mais moi, je suis assez d'accord avec ce que Laurent
Patricia.
Non, mais.
Moi, je te cède la parole. Vous êtes d'accord avec moi. Vas-y.
Moi, je m'y suis sentie bien. J'étais heureusement surprise. Je me suis sentie bien. Et dans cette maison qui résiste et puis qui va finir par céder. Et dans ce livre, cette Inès, je trouve que c'est une femme sympathique, courageuse. Effectivement, elle ne se la pète jamais. Quand elle parle, même, il y a un parallèle à un moment donné qui est fait avec Rebecca de Daphné du Maurier. Elle ne se prend pas pour Daphné du Maurier. Quand elle parle d'Anne Dufour-Montel ou de Goliarda Sapienza, elle ne. Bah, je trouve que quelqu'un qui a ces références-là n'est pas fondamentalement mauvais. C'est l'histoire d'une chenille qui se donne la possibilité de devenir papillon. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, elle a, grosso modo, elle a un peu plus de 45 ans, quelque chose comme ça.
47.
Alors bon, voilà, 47. Donc, alors les enfants, on imagine qu'elle ne les maltraite pas trop parce qu'ils sont suffisamment grands pour être autonomes. Quant au mari, il essaye de l'appeler, mais elle ne lui répond jamais. C'est à peu près la seule présence du mari dans tout le livre. Mais on a envie de la soutenir, on a envie de l'aider, on a envie d'aller prendre un café avec elle et de manger dans son assiette ébréchée. Okay. Moi, j'ai bien aimé.
Blandine ?
Moi, je suis un peu embêtée parce que je pense que c'est un livre sincère, je suis d'accord. Je pense qu'on est tous les quatre d'accord pour dire ça.
Mais t'as pas envie d'aller boire un coup avec Inès ?
Non, mais c'est un livre sincère qui peut accompagner voilà, des trajectoires en crise. Et je pense que. Non, mais que c'est important pour ça. Je suis vraiment d'accord que sociologiquement, je pense que c'est important, que ça joue, etc. Mais après, moi, ces phrases m'ont donné l'impression d'être des magnettes, en fait, qui étaient irrésistiblement aimantées. Alors, comme un magnète peut être aimanté par un frigo ou par un micro-ondes ? Est-ce qu'un magnète peut être aimanté par un micro-ondes ?
Je n'en ai aucune idée. tu veux en venir avec ton histoire
que là,
de magnète.
Ils sont aimantés par des clichés féministes, quoi. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'une femme a les cheveux blancs et immanquablement, deux phrases après, Mona Chollet est citée, les sorcières sont citées. Bon, peut-être aussi parce que c'est peut-être quelque chose de ma génération et de mon genre, etc. Mais j'ai l'impression d'être déjà tellement entourée de ces références-là. C'est que...
Mais quel âge avez-vous, Blondine Raquel?
Je trouve intéressant quand même cette idée de reconstruire une société entre femmes. Il y a cette idée-là, c'est qu'on peut se reconstruire uniquement entre femmes dans un milieu fermé.
Blandine.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est tellement... En fait, j'ai une sensation un peu de déjà-vu, de prévisibilité, en fait, de prévisibilité générale qui rendait des idées et des figures que je trouve importantes, vraiment, qui les déminaient un peu, quoi, qui les rendaient un peu moins coriaces. Mais après, je pense qu'elle a absolument raison quand elle écrit que les gens intelligents sont gentils, donc voilà.
La fugue sera le mot de la fin. La fugue d'Aurélie Valogne est publiée chez Lattès. Voici l'heure de vos coups de cœur et on commence avec toi, Patricia.
Alors, ça s'intitule « Après l'amour, virgule », comme dirait la professeure de français, encore.
Ah oui, c'est très bien.
C'est bien. Agnès Van Uvong, c'est au Mercure de France. C'est une fille qui est en quête d'amour idéal. C'est la raison principale d'ailleurs de ses échecs. Elle a une quarantaine d'années. Elle habite à Paris, c'est important. Elle donne des cours de philo à l'université. Elle est aussi écrivaine. Puis un soir, y a une copine qui lui dit « t'es toute seule, t'as envie de trouver quelqu'un, vas-y, inscris-toi sur un site de rencontre pour filles, puisque telle est sa préférence. » L'histoire fonce comme la narratrice, ça fonce comme un bolide. C'est frontal, énergique, drôle, intelligent et assez distrayant.
Après l'amour encore, d'Agnès Van Uvong au Mercure de France, validé par Laurent Chalumeau, donc, et toi?
Oui, j'ai trouvé ça rigolo.
Qu'est-ce que tu as choisi comme coup de cœur?
C'est un coup de cœur, mais alors crépitant. L'expression s'applique vraiment, ça s'intitule « Le retour du roi Jibril », c'est publié à l'Iconoclaste, et c'est un roman collectif. Ils sont 9. C'est à l'initiative de deux journalistes de Libération. Et alors, quand on voit la liste des auteurs et autrices, c'est un cauchemar de Bruno Retailleau, parce qu'ils sont quasiment tous et toutes issus de la diversité, à l'exception de quelques invités comme Mathieu Palin et Salomé Kinner. Et donc, ils sont 9 à nourrir l'imagination du roi Djibril, qui en fait est le griot ou le mytho de la cité, et qui le sous-titre du livre, c'est les contes
de
la cité. Et donc, ce sont des histoires qui ont l'imprévisibilité du quotidien, l'invraisemblance de la vraie vie, mais situées en cité. Donc, pour un bourgeois blanc boomer comme moi, n'est-ce pas, c'est délicieusement exotique. Non, mais sérieux, c'est enthousiasmant, c'est bienfaisant, c'est ce que j'ai lu de plus réjouissant depuis des lustres. Le retour du roi Jibril, c'est à l'Iconoclaste.
Jean-Marc.
Moi, c'est un coup de cœur et de raison à la fois. Ça s'appelle Locarno et c'est écrit par Christine de Mazières aux éditions du Seuil. Et ça parle de la conférence de Locarno qui a eu lieu il y a 100 ans, en 1925, au bord du lac Majeur.
Conférence. C'est chez moi, ça.
Tu étais à la conférence?
Non.
Je te croyais beaucoup plus jeune.
Merci. Non, je n'y étais pas.
C'est les puissances européennes qui se retrouvent pour essayer de signer une paix durable en Europe quelques années après la Grande Guerre. Évidemment, ils vont réussir et ça va échouer, c'est-à-dire qu'ils signeront une paix. Et donc, il y a un dialogue qui se noue entre ces diplomates, Chamberlain, Austen Chamberlain, pas celui de Munich, le demi-frère, Aristide Briand pour la France et Gustav Stresemann pour l'Allemagne. Et donc, c'est un roman diplomatique, on assiste aux tractations, il y a les journalistes qui cherchent à avoir des infos. Et puis, un côté littéraire, puisque le directeur de cabinet d'Aristide Briand, Aristide Briand, fondateur de la Société des Nations, ce directeur de cabinet n'est autre qu'Alexis Léger, qui est...
Saint-Jean-Perse,
voilà.
Locarno, donc, de Christine de Mazières, paru au Seuil. Et Blandine?
Et moi, c'est Je suis ma liberté de Nasser Abousrour, qui est traduit de l'arabe par Stéphanie Dujols. Et c'est un texte qui nous pose cette question, qu'est-ce qui reste d'humain dans les circonstances les plus âpres et les plus inhumaines? Et les circonstances, en l'occurrence, c'est la prison à perpétuité, donc pour Nasser Abousrour, l'écrivain, qui est palestinien et qui a été incarcéré en 1993 dans une geôle israélienne qui y est toujours depuis. Donc le texte a évidemment été très compliqué à publier, mais à la fin ça donne un récit classique et à la fois heurté dans l'écriture, qui fait vraiment sentir le sol qu'on a sous les pieds. Je ne sais pas comment le dire autrement, ça m'a fait me rendre compte que j'avais un sol sous mes pieds. C'est informé, c'est grave forcément, puisqu'il est question de torture, d'isolement, de grève de la faim, mais c'est aussi étonnamment ample, c'est assez métaphysique, il y a vraiment une lumière qui insiste, il y a une lueur bizarre en fait qui circule dans le récit. Et ça m'a donné à la fin un sentiment assez proche de celui que j'avais éprouvé en lisant L'espèce humaine de Robert Antelme, puisque lui aussi s'interrogeait sur ce qu'est la dignité.
Je suis ma liberté de Nasser Abousrour, traduit donc par Stéphanie Dujol, c'est édité
Gallimard.
Chez Gallimard. Et je termine avec Moi je quarantaine, une bande dessinée signée Haute Picot et troisième volet d'une série autobiographique dont les titres commencent tous donc par Moi je. Et pourtant, le personnage féminin de ce livre n'a ni le temps ni l'espace pour dire Moi je, justement. Elle a 40 ans, une petite fille, un compagnon, un boulot de dessinatrice. Et son quotidien, c'est la vitesse. Ou plutôt la course contre le temps. Alors, on pense à Claire Bretéché, qui racontait les femmes des années 70, et Haute Picot, elle, fait le portrait des femmes des années 2000, avec moins d'assignité, mais en tout cas, avec autant d'humour. C'est vraiment l'histoire de comment le quotidien parental et conjugal peut tout envahir. Le réveil pénible des gosses le matin, quand on a soi-même très peu d'entrain, les shampoings anti-poux, la fatigue, beaucoup de fatigue, les colères qui éclatent, et qui culpabilisent ensuite. Il y a énormément d'humour. Et dans le dessin, je ne sais pas si vous connaissez ces paires de chaussons avec la bande de moumoute au niveau de la cheville, là, mais en tout cas, moi, je vois très bien ce que c'est. Et puis, il y a aussi de l'humour dans les dialogues. Je vous cite juste celui-ci.
Ça sent le cul, hein, quand même.
Pour les chansons, non, pas du tout. Je vous cite juste un dialogue. Son mari, qui la sollicitait la nuit, lui dit « Bon, j'en ai marre de cette ambiance anti-sexe. » Ce à quoi elle répond « T'avais qu'à étendre le linge, j'aurais été plus dispo. » Je vous redonne le titre. « Moi, je, quarantaine, écrit et dessiné par Haute Picot. » C'est chez Dargaud, dans la collection Charivari. Jean-Marc Proust, Blandine Rinquel, Patricia Martin, Laurent Chalumeau, merci d'avoir participé à cet épisode du Mas. Exceptionnellement en studio. Les enregistrements reprendront au théâtre de l'Alliance française jeudi prochain, 24 avril, et nous débattrons à nouveau de l'actualité des livres et du cinéma. Anaïs Reynard et Guillaume Giraud réalisent cet épisode du Masque. Et c'était avec Tiffany Battistel aujourd'hui depuis le studio 621 à la Maison de la Radio. Ilinka Negulesco coprogramme et prépare l'émission avec Nina Malray. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle tribune critique dédiée au cinéma et sur France Inter, évidemment.